Détour, Madeleine Caboche.
Quand vous venez en touriste en Islande, vous admirez le paysage. Quand vous y vivez, vous essayez d'y survivre. L'Islande, c'est notre lieu de détour aujourd'hui grâce à Olivier Folmy, au photographe Olivier Folmy. Bonjour Olivier.
Bonjour Madeleine.
Olivier Folmy, donc une petite heure dans ce pays incroyable, étrange, pays des premiers matins du monde. Mais avant, petit résumé chronologique de qui est Olivier Folmy, même s'il y a combien des centaines de milliers de personnes qui ont vu ou lu vos livres. Combien de lecteurs maintenant, aujourd'hui? Je sais que vous n'aimez pas ça, mais on va le dire quand même.
Un certain nombre.
Ça se compte par millions quand même. Hein
oui, on a eu la chance d'avoir un travail qui a du succès.
Et puis autre chose aussi, ces fameux multivisions, bon c'est plus tout neuf, mais enfin vous avez circulé quand même avec les multivisions et l'histoire du fleuve gelé dans toute la Suisse romande, entre
notamment,
autres.
Notamment, hein. Oui, bien sûr, j'avais aimé partager cette aventure et le public m'avait très très bien rendu parce que c'était une histoire himalayenne. Ici en Suisse, on est un peuple de montagne et bien sûr réceptif à ce monde himalaya. Et il est vrai que cette histoire du fleuve gelé avait beaucoup marqué, oui.
Alors si on redit en résumé, ça va vraiment être les grandes étapes, hein, mais on va quand même situer que le voyageur baroudeur que vous êtes, puisque depuis 30 ans, plus de 30 ans maintenant, vous courez le monde.
35, on vieillit
35,
tous.
35, oui, ça commence justement en 75, hein, vous partez en Afghanistan, vous avez 17 ans. Mm-hmm. Puis je saute les étapes des hivers aux Zanskars, et ça vraiment, on s'en souvient bien, et c'est resté dans les têtes, 4 hivers aux Zanskars, et puis justement ces journées sur le fleuve gelé, où vous redescendez avec des enfants du Zanskars pour les mener à l'école à aller. On peut redire, je sais bien, c'est toujours un petit peu énervant.
Non,
de revenir
tout,
sur les choses qui ont fait votre succès, mais...
Non, bien sûr, ce sont ces deux enfants que les parents nous ont confiés à l'âge de 8 ans pour les scolariser. Les parents vivaient dans une région reculée de l'Himalaya, donc les Zanskars, et finalement, ces parents sont restés là-haut, et nous, on est devenus, avec mon épouse, les parents de la modernité. On a instruit ces enfants, on a joué ce rôle de parents de la modernité, et jusqu'à maintenant, Matou Pediskit ont plus de 30 ans maintenant, ils sont mariés, donc on est allé au mariage de ses enfants, il y avait les quatre parents là-haut dans l'Himalaya pour le mariage de ses enfants. C'est une très très belle histoire de vie et d'amour parce qu'il n'y a jamais eu de papier signé entre nous, rien.
C'est vrai ?
Rien, non, aucun engagement, que d'un engagement de cœur, et ça a très bien fonctionné. Donc maintenant, je suis grand-père avec nos enfants qui ont leurs propres enfants. J'ai passé l'été au Zanskar avec eux. Ça reste une grande histoire de vie et une grande histoire d'amour.
Et le livre dont nous allons parler plus longuement, qui s'appelle Le bal de l'univers consacré à l'Islande aux éditions de La Martinière, est dédié à...
Takpa, qui est mon petit-fils, puisqu'il est né, c'était le garçon de notre petite Diskit, notre fille Diskit de l'Himalaya, qui est né quand j'étais en Islande, et je l'ai appris en Islande, un jour de pleine lune, j'étais fou de joie.
Et vous avez signé que vous étiez le grand-père baroudeur pour ce petit enfant qui vient de naître. Donc ce qu'on redit aussi, c'est que vous courez le monde un peu partout après, hein, dès 1990, avec des livres quasiment chaque année, des livres de photos, Olivier. Hein.
Oui, c'est vrai que je suis productif parce que pour moi le livre c'est une manière de marquer une étape. Ce n'est pas un achèvement, c'est un jalon dans mon parcours de vie que j'ai envie de partager et c'est aussi une manière pour moi de faire le point.
Un jalon de quoi, si on précise un peu ?
Un jalon de mes voyages, de mon cheminement. Une vie d'auteur évolue. Ce que j'écris à l'âge de 20 ans et ce que je peux écrire maintenant, il y a une évolution, bien sûr, ce qui est normal. Il y a une réflexion et une maturité différente. Et il est intéressant aussi de publier régulièrement pour justement montrer ces jalons de vie. Et malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont le potentiel d'être auteurs, évidemment. On a tous une sensibilité, on a tous des choses à dire. Par contre, beaucoup n'osent pas se livrer, ont peur de la critique. Moi, j'ai eu cette chance de ne pas en tenir compte. Je sors un livre, bien sûr qu'il y a forcément des gens qui apprécient, puisqu'ils font partie de ma sensibilité aussi, mais il y a des gens qui n'apprécient pas. Et je n'ai pas la prétention de plaire à tout le monde. Donc je n'ai pas de problème à sortir des livres régulièrement, parce que je n'ai pas peur de la critique.
Qu'est-ce que vous diriez à ce jeune homme qui publie, enfin qui démarre dans la photographie? Vous démarrez d'abord dans la photographie d'expédition en Himalaya, et puis après il y a ces succès sur le fleuve gelé. Si vous retrouviez ce jeune homme aujourd'hui, vous avez 56?
Non, un peu moins, oui, enfin, c'est pareil, oui, ça se vaut dans ces eaux-là, on va dire.
Un peu moins.
54,
mais, pardon.
Non, mais attendez, on n'est pas à 2 ans près à cet âge-là, c'est pas
Qu'est-ce
important.
Que vous lui diriez à ce jeune homme de 20 ans si vous le croisiez aujourd'hui?
Croisi. J'aurais aimé à 20 ans que l'on me dise à 50 ans, t'auras 35 livres derrière. Ça m'aurait donné du courage, ça m'aurait évité d'avoir toutes ces périodes de doute qui sont quand même inévitables à cet âge-là. Il faut passer par le spleen et l'idéal. Malgré tout, ça m'aurait rassuré de savoir qu'un jour je serais un photographe et que je vivrais de la photographie. J'avais ce doute constamment. Je doutais bien sûr de pouvoir y arriver. J'ai jamais pensé, même à 20 ans, pouvoir publier un livre, être à la hauteur de ça. J'aurais aimé qu'on me dise « aie confiance dans la vie ». Et je crois qu'il faut toujours avoir confiance dans la vie, parce que la vie, elle est positive. Bien sûr qu'on finit par en mourir, mais c'est pas négatif que de mourir.
C'est pas aussi ce doute qui fait avancer?
Le doute fait avancer, mais en même temps l'espoir aussi. je pense qu'il peut donner des forces, il peut décupler les forces, hein, l'espoir et la confiance. Le doute, si le doute n'ébranle pas la confiance, il est positif, mais s'il l'ébranle, il est destructeur.
Olivier Folmy, nous étions toute cette semaine en Thaïlande, et je le redis aux auditeurs qui nous rejoignent, nous allons passer un petit bout de temps en Islande, grâce à vous, grâce à ces photos sublimes de ce livre qui vient de paraître. Mais puisque nous étions en Thaïlande, et que je crois savoir que vous y avez vécu un petit moment, justement peut-être pour vous retrouver, pour ressourcer, ça c'était il y a 2 ans. Donc le choix de la Thaïlande, le choix de Bangkok, pourquoi ?
À me ressourcer, je passe. Excusez-moi, vous parliez de l'Islande ou de la Thaïlande?
La Thaïlande.
Ah, pardon.
Oui, je comprenais mal la Thaïlande. Mais aussi pour refaire le point.
Non. C'est que moi, je suis asiatique un peu dans l'âme, une partie de ma vie.
Asiaphile.
J'ai passé 20 ans dans le monde himalayen. Donc, je suis évidemment d'une sensibilité bouddhiste. Hein, et j'avais besoin de me retrouver en Asie pour retrouver ce monde qui me parlait. Et la Thaïlande, enfin Bangkok, moi j'aime beaucoup Bangkok, hein, parce que c'est au cœur des mondes de l'Asie. Vous avez déjà le monde qui converge vers Bangkok. Vous avez la modernité, la tradition, la grande modernité. Vous avez des centres commerciaux qu'on n'a pas ici en Europe, d'une beauté incroyable aussi. En même temps, vous avez ces gargotes de rue, où vous pouvez vivre de façon très simple. Et j'aime les Thaïlandais pour... Il y a une manière d'être, de douceur. Il y a aussi une discipline collective, une éthique de vie que j'aime beaucoup en Thaïlande. Par exemple, vous ne pouvez pas acheter un mégot de cigarette dans la rue. J'ai eu un exemple d'une amie dont l'enfant avait jeté le mégot de cigarette sur le trottoir et finalement il s'est retrouvé au poste.
Vous plaît ça ?
Oui, ça me plaît. Au poste, attention, laissez-moi finir. C'est pas qu'il se retrouve au poste qui me plaît. C'est que les policiers lui ont fait la morale en disant il y a une discipline collective. Et finalement, ce jeune a très bien compris. Et donc, ils l'ont pas amendé du tout. Mais il fallait des repères. Et ce que j'aime en Thaïlande et en Asie en général, c'est qu'il y a cette forme de repère. On peut pas faire n'importe quoi. Et du coup, Bangkok est une ville dans laquelle vous êtes parfaitement en confiance. Vous ne risquez pratiquement rien. On n'est pas à Tokyo ou au Japon, on ne risque rien du tout. Mais malgré tout, il n'y a jamais l'appréhension d'avoir de la violence à Bangkok, même le soir.
Même quand des mafieux veillent sur le quartier chinois, par exemple.
On fait toujours un cas d'exception. Mais malgré tout, Bangkok est une ville sûre où on est parfaitement à l'aise, qu'on soit un homme ou une femme. Après, bien sûr que la ville n'est pas idéale, je ne veux pas non plus idéaliser. Mais attention, méfions-nous de ne pas pointer du bois que les exceptions. Moi, je vous dis, j'aime Bangkok parce que c'est une ville dans laquelle on est en paix.
Alors, hier, nous étions avec les Lady Boys, et vous m'avez dit, avant d'arriver à ce micro, moi je les ai beaucoup photographiés. On redit que c'est les transsexuels en Thaïlande, surtout dans les grandes villes, donc qui sont des garçons qui se sentent l'âme d'une fille. Vous les avez photographiés?
J'étais fasciné par les Lady Boys, oui. Parce que quand je suis arrivé en Thaïlande, j'allais là-bas pour photographier un peu l'âme de l'Asie, des gens de l'Asie. Et les filles thaï sont très douces en apparence, mais elles n'avaient pas l'énergie que je souhaitais dans la photo.
C'est-à-dire
elles ont un regard très éteint quelque part. Éteint dans le sens parce qu'on leur apprend pas à se développer leur personnalité. Elles ont, on leur apprend, comme beaucoup de femmes en Asie, à être dociles. Et un jour, dans la rue, je croise une femme très belle, qui avait une énergie que je n'avais pas connue ailleurs. Et je la suis jusqu'au feu rouge du trottoir, et je discute avec elle. Et tout d'un coup, elle me répond d'une voix grave, et je comprends que c'était un Lee Boys. Et j'ai compris que finalement, elle avait la beauté de la féminité, et elle avait l'énergie de la masculinité. Et donc, ça m'a interpellé. Je me suis rapproché des Lady Boys. Avec mes assistants, on est allé dans les bars, Lady Boys, pour les connaître. On a discuté, comprendre justement que c'était des gens qui avaient ce chemin de vie, ce choix, ce besoin de changer de sexe, mais qui avaient aussi leur vie tout à fait normale. Et j'ai eu des contacts merveilleux avec ces femmes. Je dis des femmes parce qu'elles apprécient qu'on les traite de femmes. Et c'était très intéressant. Puis moi, j'aime, vous savez, j'aime aller au cœur des choses. J'aime vivre tous les mondes. Donc ça me plaisait de connaître aussi ces mondes qui sont, quand on les voit d'extérieur, un peu différents, donc on a un peu de la peine à aller vers eux. Pas du tout. Ce sont des hommes et des femmes comme tout le monde qui ont eu envie d'exprimer leur sensibilité. Et donc, avec mes assistants, on en a pris 4-5. Hein. Choisi 5 pour les photographier. On a loué un studio à Bangkok et c'était une journée magnifique parce qu'elles sont arrivées très fières d'être photographiées, de poser. Et puis bon, elles aiment ça, elles aiment poser, mettre en valeur leur beauté. Et moi, ça m'a permis de mieux les comprendre, mieux les connaître. Mais par contre, ce qui m'a frappé, c'est que je n'ai pas fait une belle photo. Je ne suis pas arrivé à faire une belle photo d'elle, de ce que je ressentais. Parce qu'en fait, la photo ne captait que la masculinité de ces hommes et de ces femmes. Et donc, je ne suis pas arrivé à percevoir l'aura qu'elles dégageaient de leur féminité. Et ça m'a interpellé dans les limites de la photographie.
Olivier Folby, vous êtes aujourd'hui ici, et pardon de vous faire un détour pour parler de l'Islande, juste avant que nous écoutions Björk et que nous rencontrions mieux ces paysages dans lesquels vous êtes investi pour nous les rendre et nous les faire miroiter. Le nom du volcan qui est rentré en éruption en 2010.
Oh, m'en parlez pas. Non, attendez. Moi, cette Islande, elle me sort par les oreilles au niveau de ses noms. Parce que quand vous êtes dans un village de 3 maisons, le panneau pour indiquer le nom du village, il fait 1m50, c'est tout juste s'il barre pas la route. Donc ne me parlez pas de ce volcan.
C'est vrai que c'est une langue rugueuse, comme le paysage.
C'est une langue de viking.
Bon. On va revenir là-dessus, on écoute, elle va chanter dans la langue de viking, la Björk que nous écoutons grâce à Nathalie Schoenberg dans Des Tours.
Thank you. samin við bref var slóst í mig við og augun hennar eru bæði blá og djúp og skær og hún brosir dátt og hlær
Voilà, c'est grâce à Björk aussi que quelquefois on a eu envie de s'intéresser d'un peu plus près à l'Islande, de la même manière que il semble que les polars islandais soient lus de plus en plus depuis une dizaine d'années. Notre réalisateur acquiesce. Effectivement, c'est aussi sont aussi des porte-parole de cette Islande. 320 000 habitants. Les deux tiers des habitants sont installés à Reykjavik et puis le reste du pays, espèce de planète incroyable, un peu hostile. Qu'est-ce qui vous a amené en Islande, Olivier Folmy?
Justement, le besoin d'isolement, le besoin de me retrouver un peu aux confins du monde. J'avais un projet, je suis sur un projet d'écriture et j'avais besoin de m'isoler. C'était l'été, je trouve qu'il y a toujours trop de monde un peu dans notre partie du monde ici en été. Donc j'avais besoin de fuir un peu dans des endroits, des contrées un peu isolées. Et j'adore l'Islande, j'étais déjà allé, j'aimais. Et puis j'avais besoin de me confronter à une nature hostile.
Elle est hostile, hein, vous êtes d'accord?
Bien sûr qu'elle est hostile. Oui.
Elle n'est qu'hostilité, non?
Non, bah, enfin, tout dépend. C'est comme la bouteille, c'est la moitié vide ou moitié pleine. Moi, j'aime ces éléments. Je la vivais pas comme une hostilité. J'aime être au cœur des éléments vivifiants, au cœur de l'univers. Mais il faut reconnaître que c'est quand même une nature hostile. Enfin, c'est pas la Toscane, quand même.
250 volcans.
Oui, enfin, ils pètent pas tout le temps, mais bon, la nature est sauvage. C'est la grande nature, l'Islande. Mais en fait, j'avais besoin, moi, d'aller là-bas pour écrire. Je voulais m'inspirer dans des univers tonifiants. Et donc, je suis allé là-bas dans un projet d'écriture, pas du tout photographique. Mais en fait, j'ai pas écrit une ligne. J'ai fait que photographier. J'étais happé par la beauté du paysage, par les énergies, par les lumières.
On sent une énergie très forte dans
ce pays. C'est magnifique. Fantastique, mais rien que quand vous prenez le bateau. Moi, je suis parti en fourgon aménagé parce que je voulais me mettre dans des coins isolés. Je voulais aller vraiment dans des. Enfin, c'est pas difficile en Islande. Il suffit de bouger 3 km, on est isolé. Mais voilà, je voulais être autonome et j'ai pris le ferry depuis le Danemark. J'ai fait une escale aux îles Féroé parce que j'adore les îles Féroé. C'est la vitamine à l'état pur.
Pourquoi?
Oh, attendez, c'est un pays incroyable. C'est des côtes déchiquetées avec il pleut sans arrêt aux îles Féroé. Donc vous avez de la mousse qui dégouline des falaises, des cascades, de l'herbe, des moutons qui ont 3 épaisseurs de laine. On croirait des animaux préhistoriques. Il y a un dicton des îles Féroé qui dit si vous n'aimez pas le temps aux îles Féroé, attendez 5 minutes. C'est pas compliqué.
Ah, parce que ça change tout le temps.
Tout le temps, tout le temps. Donc c'est extrêmement vivifiant et moi j'adore ça. Et puis bon, j'aime les habitants aussi. C'est des gens qui sont gays, on les sent dans un environnement plus harmonieux quand même, plus généreux que l'Islande. Après, quand on reprend le ferry pour aller en Islande, l'Islande c'est quand même la terre brûlée. Et on sent que c'est les premiers qui sont arrivés en Islande, qui ont créé le peuple islandais. C'était des durs pour s'installer là-bas, pour braver les tempêtes, la météo. Non, pas les Vikings, pas forcément. Non, c'était tous ces marins qui venaient du continent, qui venaient de l'Europe du Nord, même de Bretagne aussi, des Anglais.
De Dunkerque.
Bien sûr. Des gens incroyablement courageux. Plein d'admiration pour ces hommes-là. Là, je me dis ça, c'était vraiment des aventuriers. Ils savaient pas où ils arrivaient, ils bravaient ces éléments. L'histoire de l'Islande, c'est que des histoires de naufrages tout autour de l'île. Donc, il fallait du courage pour arriver dans ces îles sans carte, sans savoir où on débarquait, et puis s'y installer, et commencer à cultiver, et faire de l'élevage, jusqu'à faire un peuple. Chapeau. Moi, je dis les Islandais, chapeau.
Mais en même temps, vous disiez effectivement, dureté, pas de générosité. Est-ce que eux sont généreux, les Islandais?
Je peux pas me permettre de parler des Islandais. Parce que j'y ai pas passé assez de temps. J'étais sauvage, comme un peu les Islandais, si vous voulez. Ce sont tous ces peuples nordiques qui vivent beaucoup dans la nuit. Donc non pas une convivialité des peuples du Sud qui sont tout le temps dehors, parce qu'il y a toujours le soleil. Bon, la vie se passe à l'extérieur. Non, en Islande, la vie se passe à l'intérieur. Donc il n'y a pas beaucoup de points de rencontre, bon, à part à Reykjavik, mais ailleurs, on se rencontre à la station-service. Donc c'est pas très convivial. Alors après, par contre, est-ce que les Islandais entre eux se retrouvent en une vie très communautaire? Honnêtement, je ne le sais pas. Parce que je n'ai pas abordé le peuple, l'Islande, à partir de son peuple. J'y suis allé parce que j'avais besoin de me retrouver et j'étais happé par cette force de l'univers qui m'a captivé, qui fait que je n'ai pas éprouvé le besoin de me rapprocher des hommes en Islande. Plus tard, il faut y aller par étapes.
Donc on peut se dire, parce que en effet, dans ce livre, Le bal de l'univers, Olivier Folmy, il y a pas d'humains. Ou alors ils sont tout petits comme des fourmis, là-bas, en contrebas, dans la pénombre. Dans le prochain, il y aura des humains?
Le prochain.
C'est pas un reproche, hein?
Non, pas de problème. Non, je saurais m'expliquer pourquoi il n'y a pas d'humains. Je viens d'ailleurs de vous le dire.
Oui, pour l'Islande.
Il y a des humains tout petits parce que j'étais happé par l'immensité de l'Islande et par le sentiment d'être non pas sur Terre, mais au cœur de l'univers. Et vous avez tous les éléments qui vous giflent constamment, quoi. L'eau, de la pluie, du vent, les vagues qui explosent.
Il y a beaucoup de vent tout le temps, hein?
Pas toujours, hein, mais enfin, quand il vient, il est fort. Oui, tout le mois de septembre, j'étais ballotté dans mon fourgon, j'arrivais plus à dormir la nuit, tellement j'étais ballotté dans tous les sens.
Le fourgon qui est là garé en bas de la radio, qui est énorme, et qui était ballotté.
Énorme, attendez, non.
Qui était ballotté par le vent.
Infernal. À un moment donné, je me suis demandé s'il allait pas rouler sur la grève et être balancé contre les vagues, tellement le vent était fort. Enfin, tout le mois de septembre était un peu difficile. Même pour vous dire, une fois, j'étais fatigué de ce vent. J'avais repéré une plage, hein, qui était un peu abritée, à mon avis, par rapport à la direction du vent. J'y suis allé, une plage, enfin, c'est pas une piste, hein, bon. J'arrive au bout de cette plage, évidemment, personne. Moi, j'ai vu personne pendant ces deux mois. Pratiquement, et à part aux stations-service où j'allais faire mon plein d'essence et mon plein d'eau. Et donc, j'arrive sur cette plage totalement déserte. Il n'y avait pas de vent. Ça faisait presque un mois que j'avais du vent tout le temps. Bon, j'étais soulagé. Je sors mon grill, me faire un poisson, tout content, tout ça, sans cette nature sauvage. Et tout d'un coup, allez savoir ce qui se passe, il y a le vent qui tourne. Et voilà, ce qui m'oblige à rentrer tout, mes affaires pêle-mêle dans le fourgon, enfin me réfugier là-bas dedans. Bon, j'en ai assez. Je me dis, allez, bon, je me défouler, je vais faire une photo. Parce que c'est vrai qu'il y avait des vagues incroyables sur la plage, tout ça. Je dis, bon, je vais faire mes photos. Puis bon, photographier les vagues, c'est pas très difficile. Elles arrivent de façon régulière. Bon, il suffit de poster au bon endroit. Enfin, bon, pas où est le risque. Et allez savoir ce qui s'est passé, là j'ai rien compris. Je sais pas si c'était un tsunami, un tremblement de terre. Enfin, tout d'un coup, il y a une vague qui m'a sauté dessus, je l'ai pas vu venir. Flaf. Trempé. Le matériel foutu, évidemment. Je rentre à mon camping-car. Mais vous savez, un peu comme le pingouin qui sort de la marée noire. Puis j'étais en souci, parce que ça faisait presque 15 jours que mes affaires séchaient plus dans le fourgon. C'était très humide. Je me dis, mais comment je vais sécher ça? Quel bazar. En plus, matériel fichu. Le vent qui m'empêchait de marcher, je titubais pour lutter, pour arriver vers mon fourgon. Et à un moment donné, le vent poussait tellement fort contre le haillon du fourgon, parce que les portes à l'avant, je les avais bloquées, j'avais que le haillon de côté qui pouvait s'ouvrir, j'arrivais plus à ouvrir mon haillon, tellement le vent faisait pression. Et je me dis, mais je vais crever, j'étais trempé, ça faisait froid quand même. À un moment donné, je me dis, bon, ben, le seul moyen de rentrer chez moi, là, c'est de faire le tour et puis de casser une vitre. Donc, je suis parti, je fais le tour du fourgon, je pris un caillou, puis je me dis, attends, t'en es où, là? Tu commences à casser les vitres pour entrer chez toi, après, tu vas faire comment? Donc, je suis revenu, j'ai repris la poignée de mon haillon, et puis j'ai attendu qu'il y ait une baisse de vent, et à un moment donné, j'ai tiré là-dessus, quitte à l'arracher, le haillon s'est ouvert, j'ai bondi dans le fourgon, j'ai refermé la porte. Je dois dire que j'étais un peu traumatisé parce que je suis resté 3 jours sans sortir du fourgon après. Voilà la météo de l'Islande.
On va revenir sur ce pays qu'on voyage grâce à vous, Olivier Folmy, en direct aujourd'hui avec ce livre, Le bal de l'univers. Je vous propose d'écouter une chanson et après, nous essaierons de comprendre aussi ce qui vous a donné envie, en parallèle aux photos, d'inscrire des textes d'Hubert Reeves.
Ooh. Allez, neige, tombe comme avant, éclaire-moi dans la nuit noire. Éclaire-moi maintenant, je ne suis plus vraiment comme avant. C'est un cimetière d'étoiles cassées qui a poussé hier dans mes poches glacées. Bon anniversaire. Come home, little mama, come home, little bird, don't stay alone in the rain. Come home, little mama, come home, little bird, don't stay alone in the rain. Mais allez, neige, tombe comme avant, éclaire-moi. J'en veux encore des bras, des comme les tiens. Tiens-toi bien, je me tiens bien. J'en veux encore des étoiles filantes entre mes doigts dans le ventre et le cœur planté. Moi, je me soulèverai. Allez petit, fais-nous voir ça. Je ne sais plus comment ça marche, les éclairs, mais j'en veux encore. J'en veux encore. Oh, j'en veux encore. Oh, j'en veux encore. Il faut réparer, recoller, me recoudre à la foudre, superglue des cieux. Messieurs, dames, je ne vais peut-être pas y arriver. Mais allez, neige, tombe comme avant, éclaire-moi. Envoie-moi tes flacons d'éclairs tendres. Tombe sur moi, avalanche, avale-moi. Je me soulèverai la terre avec mon petit doigt vissé à la mer. Et si je pique encore une colère, tout s'écroulera sur ma gueule, comme avant et maintenant, comme avant et maintenant, comme avant.
C'est Détour sur la première où nous avons le plaisir d'accueillir le photographe Olivier Folmy avec des textes dans ce livre Le bal de l'univers aux éditions de la Martinière, des textes du scientifique rêveur Hubert Reeves. Et celui-ci par exemple, Terre, planète bleue, qui accomplit son 4 milliards 556 millionième tour autour d'un soleil qui achève sa 25e révolution autour de la Voie lactée. Avec cette impression que dans ce pays-là, l'Islande dont on parle cet après-midi, on se pose de grandes questions métaphysiques parce qu'en effet, on n'est plus du tout sur une Terre normale. On se resitue dans le cosmos en Islande ?
Ah oui, oui, on n'a pas du tout l'impression d'être sur Terre. Mais c'est ce qui est fantastique, c'est ce que j'ai aimé en Islande et c'est ce que je suis allé chercher. C'est comprendre un peu mieux ma place hein, et sur cette Terre et qu'est-ce que c'est que cette Terre hein, et qu'est-ce que c'est que l'univers et qu'est-ce qu'on fait dans cet univers. Parce que quand on est dans nos villes, dans notre mode de vie confortable, on n'a aucune conscience de ça. On est pris par notre quotidien, on a l'eau courante qui arrive au robinet, l'électricité, on a nos logiques de comportement, on n'a aucune conscience de l'univers qui est autour. On n'a pas conscience que tout ça, le feu qu'il y a sous la terre.
Pas parce qu'il n'y en a pas autant qu'en Islande, en plus, chez nous, hein, quand même.
Non, mais enfin, quand même, quand il y a une petite secousse, tout ça, on est affolé, mais parce qu'on oublie. On oublie qu'on est sur une terre qui bouge, qui a tout ça autour. Et l'Islande vous le rappelle, mais de plein fouet. Et c'est ça qui est fantastique. J'ai aimé ce pays pour ça. D'ailleurs, je l'ai compris quand je suis allé. Je cherchais toujours à écrire. J'ai toujours pas écrit de livre. Hein. Je m'accrochais quand même à cette idée. Et je dis, j'avais repéré sur la carte un cap tout au bout d'une presqu'île, un phare qui est au bout d'un cap. Et je me dis là c'est le bout du monde. Là, je serai inspiré. Bon. Donc, je me suis mis en tête d'y aller. Et j'ai pris mon fourgon. Fait la route sur plus de 100 km. Après, j'ai eu une piste goudronnée de 100 km. Sur la première route, j'ai croisé trois voitures. Hein. Sur la piste évidente de 100 km, j'ai croisé personne. Et après, il y avait 20 km de piste 4x4 pour arriver à mon phare, qui était au nord-ouest. Et je me dis, bon, mon fourgon, c'était pas un 4x4, mais enfin, on peut toujours essayer. Faut voir. Si ça passe pas, je reviens en arrière. Et je suis arrivé à cette piste 4x4. Il fallait y aller lentement, 3-4 km heure. Elle faisait une vingtaine de kilomètres, donc j'ai mis que 5 heures. Et c'était austère.
5 heures pour 20 km.
Ben oui, parce que j'avais pas un fourgon adapté, non. Mais bon, ça passait. Et sauf que cette fichue piste, elle longeait une coulée de lave pétrifiée pendant 20 km. Et ça fiche le moral en bas. C'est une coulée qui était plus haute que mon fourgon, qui est noire. Mais la lave pétrifiée, elle absorbe la lumière, l'énergie. Enfin, c'est épouvantable. Bon, pendant 4-5 heures, j'étais au bord de cette coulée, comme ça. Le jour s'estompait, enfin, la lave était là, noire, le ciel devenait noir, bon, ça devenait un peu austère, ce coin-là. Et j'arrive au bout, et cette coulée de lave, elle s'était arrêtée avant de tomber dans la mer, donc il y avait encore un bout de terre, mais comme une langue de baleine échouée, enfin, elle s'arrêtait. Puis d'un coup, là, il y avait un peu de terre, avec un phare. Et il y avait des fumerolles qui sortaient de la terre, il y avait des marmites bouillonnantes, enfin, une ambiance, il y avait la mer qui explosait contre la grève, les vagues, il y avait ce vent qui rugissait l'univers, et il y avait ce foutu phare. Alors je dis ce foutu phare parce qu'il m'a mis un moral en bas.
Parce que le phare, au contraire, ça aurait pu être...
Bien sûr, s'il y avait eu un homme dedans. Mais pour moi, il y avait personne, c'était un phare automatique et j'avais vraiment l'impression qu'il appelait au secours. Il balayait l'inutile avec son faisceau qui appelait au Canada, au Groenland, on sait pas. De toute façon, il balayait l'inutile, il servait à personne ce phare, il faisait vraiment le naufragé, quoi. Donc je me suis senti aussi naufragé au bout de ce cap et je me dis, mais attends là, Olivier, tu restes pas la nuit là, c'était trop... il y a des énergies négatives, ça allait pas, quoi. Ces fumerolles, vous savez, qui sortent sous pression de la terre autour de mon camion.
C'est l'enfer, c'est l'antre du diable.
Ah, c'était l'apocalypse. Alors au début, j'avais déjà vu des endroits comme ça où les fumerolles sortaient de terre. Où c'est rigolo, vous sentez le diable. Hein. Vous savez, vous avez l'impression de jongler entre les fumerolles qui sortent de terre. Mais là, tout seul, hein, au bout de ma piste 4x4, avec ces coulées de lave, complètement perdu, pas un chat évidemment. Là, ça allait plus du tout, je me prenais plus pour le diable, là, j'avais peur.
Vous aviez vraiment peur?
Ah bah bien sûr que je me sentais pas rassuré, donc j'ai repris le volant, j'allumais mes phares, je me dis, moi je dors pas la nuit là.
Donc pas de photo? Même pas de photo?
Rien. Non, attendez, mais j'avais les cheveux droits sur la tête, faut voir où j'étais quand même. Enfin, ça pétait de tous les sens, de sous la terre, du vent, de l'eau, enfin, une ambiance. Puis moi tout seul là-dedans, avec mon pauvre fourgon, non, je dis, moi je passe pas la nuit là, bon. Je rallume mes phares, qui illuminent les fumerolles qui sortent devant les phares. Enfin, oh là là, je me dis, je me fais pas 4 heures dans cette ambiance avec cette coulée de lave à côté. Non. Allez hop, j'éteins tout, je ferme les rideaux, tac tac, je me mets sous la couette.
Et... avec de la musique dans les oreilles, non?
Non, j'étais pas à l'aise, j'étais pas en situation de me détendre. J'étais dans... Vous savez, des fois, il y a des énergies qui sont trop fortes et qui vous prennent, qui vous mettent mal à l'aise. J'étais mal à l'aise et puis il y avait ce vent qui ballottait mon fourgon. J'étais sur ma couchette d'un côté à l'autre. Bon, j'ai pas fermé l'œil. Et à un moment donné, j'ai entendu tambouriner au fourgon. Oh là, ça ne manquait plus que ça. Il y avait personne, évidemment, quoi. C'était tout dans ma tête. Hein. Mais j'ai entendu tambouriner au fond. Je me suis raisonné, j'ai allumé la lumière, tout. J'ai rééteint, j'ai dit, Olivier, tu te calmes. À un moment donné, j'entends des voix qui tournent autour.
Ouh là là.
Et là, les yeux grands ouverts, j'osais même plus ouvrir la lumière. Et je raisonnais, je me dis, mais Olivier, c'est dans ta tête, tout ça. Mais je n'étais pas sûr que ce soit dans ma tête. Je sais pas. Et c'est ça que j'ai aimé vivre. Savoir que finalement, tout ce domaine que l'on ne connaît pas, pourquoi il n'existerait pas? Pourquoi il n'y aurait pas des voix? Pourquoi il n'y aurait pas d'autres esprits autour? J'avais eu cette conscience en Himalaya, des esprits subtils. Vous savez, dans le monde du bouddhisme tibétain, il y a 6 mondes, dont 4 qui sont des esprits subtils qu'on ne connaît pas dans le monde des vivants humains, mon cher. Et j'ai aimé côtoyer aussi cet autre monde, quelque part. Ce qui me faisait peur, c'était de penser que c'était pas vrai, que c'était dans ma tête. J'aurais préféré que ce soit des gnomes ou des elfes qui existent. Mais en fait, je me suis, le lendemain à l'aube, j'ai ouvert mes rideaux, j'ai glissé un œil dehors pour regarder un peu cet apocalypse de la nuit. Et le jour était là, c'était beaucoup moins effrayant. Mon phare était mort, il balayait plus l'inutile, il s'était éteint. Donc là au moins, ce naufragé-là, j'en en parlais plus, il était mort dans son coin. Je me suis senti déjà mieux, tout seul dans cet univers. Et du coup, je me suis réconcilié avec ce monde, avec cette partie de l'Islande, ce cap. Et là, j'ai commencé à lire. J'ai commencé à lire Hubert Reeves. Je me sépare jamais d'un livre d'Hubert Reeves parce que je trouve qu'il a la capacité de faire comprendre l'infini et la place de l'homme dans cet univers. Et je lisais un de ses livres, c'était l'univers raconté à mes petits-enfants, qui était tout à fait à mon niveau et à ma portée. Ça m'allait très bien, surtout dans mon cap, là-bas, dans mon fourgon. Et j'étais fasciné de ce qu'il disait, que la lumière du soleil met 8 minutes pour nous parvenir. Bon, moi, ça me disait pas grand-chose. 8 minutes, c'est pas beaucoup. En même temps, enfin, s'il paraît loin, le soleil. Bon. Il dit, mais par contre, l'étoile polaire, c'est 500 années-lumière. Oula, donc c'est plus 8 minutes, là, c'est autre chose. C'est une autre dimension. Donc là, on passe un cap au-dessus. Il dit finalement, les étoiles, les trois mages, c'est 1500 années-lumière. Donc c'était avant l'Empire romain, que leur lumière est partie de là-haut pour arriver maintenant à nos yeux. On décolle déjà un peu plus. Il dit, mais ça c'est rien, parce que la galaxie d'Andromède, c'est, je sais plus quitte à dire des bêtises, mais c'est 1 500 000 années-lumière. Et il dit, mais de toute façon ça c'est encore à notre portée, parce que au-delà il y a des milliards d'autres galaxies. Mais quand vous lisez ça, dans votre fourgon,
ça calme.
Sur ce cap, avec ces vagues qui sortent, qui viennent du fond de l'océan, que vous avez ce vent qui vient de rugissant de l'univers, ces fumées qui sortent de terre, vous ne sentez pas sur terre, vous comprenez la dimension de l'univers.
Et ce qu'il dit aussi, c'est que l'univers peut très bien se passer des humains.
Alors c'est ça qu'on comprend, c'est ça qu'on... Alors il le dit très bien, mais moi dans mon cap, j'ai bien compris que je sois là, que je sois pas là, sous ça, je n'aurais absolument rien changé. Et que si la Terre n'était pas là, ça ne changerait rien à l'univers. Donc si l'homme n'était pas sur Terre, ça ne changerait rien à l'univers. Et que même si l'homme détruit cette planète, comme on est en train de le faire, qu'on n'a pas la conscience des générations à venir et qu'on calcine tout, ça ne changera rien. Parce que de toute façon, dans 2 millions d'années, la nature reviendra, mais pas l'homme.
Détour de 13 à 14 heures sur la première.
Spill a mental.
l'artiste Olivier Folmy, le photographe Olivier Folmy, notre invité. Nous sommes en détour du côté de l'Islande avec ce livre, Le bal de l'univers aux éditions de La Martinière. Mais comme vous me le racontez, j'ai presque l'impression quelquefois que c'est une punition, ce séjour, parce que à la fois il y a besoin de se ressourcer, de solitude, mais presque, vous êtes content quand vous souffrez, non?
Ah, c'est pas de la souffrance. Hein. Oui, c'est une punition quelque part, mais au bout d'une punition, il y a toujours une récompense. Et ça, je l'ai appris dans mes voyages. À partir à l'imprévu, à oser. Oser vivre, quitte à en mourir. Mais mourir de joie aussi. Ou mourir de beauté, de bonheur.
Il se passerait quoi si vous pouviez plus voyager?
Eh bien, je voyagerais dans une autre vie, dans un autre monde. Je sais pas, si j'étais handicapé, c'est autre chose. Dire ce qui se passerait dans des cas comme ça, j'en sais rien. Mais par contre, j'ai la chance d'avoir 35 ans de voyage derrière moi. Donc je peux me nourrir de ça. De toute façon, je suis en sursis, moi. J'aurais dû mourir depuis longtemps.
Déjà, avec beaucoup de choses dangereuses. Bah, déjà sur le fleuve gelé.
Mais bien avant, ici à Genève, je suis tombé du pont de Sierne en voiture. J'ai défoncé le pont de Sierne. Si le pont de Sierne a deux voies maintenant, c'est grâce à moi. On devrait l'appeler le pont Folmy, ce pont. Je suis tombé en voiture de ce pont. J'ai loupé le virage. Je suis tombé dans l'arbre avec la voiture. Elle a coulé immédiatement. J'aurais dû mourir, c'est évident. Je suis sorti à la nage. J'ai eu une chance folle. Il m'est rien arrivé.
Enfin, plus tard, le fleuve gelé.
Divers aux Anscars, la gangrène, après en expédition à 8000 mètres.
En expédition à 8000 mètres, il vous est arrivé quoi là?
Oh bah, j'ai failli mourir de froid, bloqué dans la tempête, avec les tentes. Enfin, c'est encore une autre histoire. Enfin, j'en ai plein d'histoires à vous raconter de où j'aurais dû mourir. Donc, je m'estime en sursis. J'ai appris à cohabiter avec la mort, puis finalement à comprendre que la mort aussi est une autre forme de vie et que c'est qu'une prolongation de la vie. Je n'appréhende pas du tout la mort. Au contraire, je m'en réjouis comme une autre forme de voyage. Par contre, j'aime autant la vie que la mort, et donc j'aime vivre. Prendre aussi certains risques, pas inconscient, je ne suis pas inconscient, je les mesure, mes risques, mais par contre, je ne suis pas timoré. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai envie de vivre, quitte à en mourir.
Pour être plus prosaïque, combien il faut de temps pour prendre une belle photo réussie?
Le temps que la vie vous offre, la belle photo. Il faut le temps de la lumière, du cadrage. Et vous, de la bonne disposition d'esprit. Donc, il n'y a pas de temps. On peut pas définir un temps. Ce qui est certain, c'est qu'il faut donner le temps pour faire la belle image. Et qu'une bonne photo ne découle que du temps qu'on lui consacre. Rien d'autre. Pour faire un beau paysage, pour moi, il faut déjà, être sur place, avoir la sensibilité du lieu, ensuite se rendre à l'endroit clé pour un cadrage cohérent, et ensuite attendre. Attendre dans ce cadrage la bonne lumière. Et là, ça ne nous appartient pas. Donc il faut le temps que cette lumière arrive. On peut attendre des heures. Moi, même en Islande, j'ai attendu, j'ai rien fait. Ou en Himalaya.
Ça peut aller jusqu'à quand?
Moi, j'ai attendu deux jours, des fois. Et puis finalement, j'y ai renoncé. J'ai des photos, pas en Islande, mais en Himalaya, que j'ai mis 3 ans à faire. Hein. Je suis retourné 3 fois de suite au même endroit. J'ai attendu, c'est pas venu, puis finalement, c'est arrivé. Une photo... Mais c'est pas très grave pour moi de ne pas réussir à faire une belle photo. Parce que la photo n'est pas un but pour moi, c'est un moyen d'être en symbiose, en harmonie avec ce que je vis, que ce soit la personne ou le paysage. C'est ça qui m'intéresse en photo. Une fois que vous appuyez sur le déclencheur, la photo, l'instant, la magie de la photo est terminée. Vous l'avez captée, mais c'est pas thésauriser qui m'intéresse, c'est de vivre.
J'en suis bouche bée là. Juste, puisqu'on parle de photos, de comment faire, en étant presque technique, là, il va se passer une chose au salon du livre, c'est qu'il y aura, avec Animan, un concours pour les jeunes photographes.
Ah oui, génial, c'est super de faire ça. C'est Animan, c'est la revue Animan suisse, donc qui fait ça avec le Tigre Vanillé, donc l'agence de voyage à Genève, qui ont monté ça. Je tire mon chapeau. Ils m'ont demandé d'être jury du festival, ce que j'ai bien sûr accepté. Parce que il donne des chances aux jeunes photographes, hein, et c'est rare. Il y a des prix très intéressants. Les 3 premiers seront exposés au Salon du Livre. Il y aura 15 photographies. Bon, on m'a demandé d'exposer 15 de mes images. D'ailleurs, je serai dans le portfolio d'Animan de mars-avril. Et ces images-là seront exposées au Salon du Livre. Mais surtout, il y aura les photos de ces jeunes photographes qui sont primés, qui seront exposées. Les prix sont intéressants. le but, c'est de faire, d'envoyer des photos qui font rêver de voyage. Donc, moi, je trouve fantastique parce que les prix sont rares où il y a des prix, où il y a des récompenses qui sont données. Parce qu'on sait que c'est difficile, la photographie. De vivre de la photographie est très difficile. Et donc, on n'arrive pas à gagner quelque chose. On essaye, on investit pour des prix. Mais la reconnaissance d'avoir un prix ne suffit pas. À un moment donné, on a besoin de quelque chose de matériel ou d'argent. Et donc, je tire mon chapeau que ce prix respecte tout ça et donc respecte les photographes. Donc, j'encourage tout le monde à aller voir sur le site, justement. Vous allez le mettre en ligne, je pense, sur le site radio. Et de tenter sa chance, hein, de tenter sa chance sur ce concours.
Vous dites ce qui est important, c'est une fois que la photo est prise, c'est fini. Mais, et puis, puisqu'on parle de prix, là, vous avez reçu le WordPress, qui est quand même la récompense du photographe. Ça veut dire qu'on est dans les, je sais pas, 40 meilleurs photographes du monde. Qu'est-ce que ça fait, ça, quand même?
Bah, ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir une reconnaissance parce qu'on n'a pas de diplôme dans notre métier. Bon, un livre qu'on peut publier est une forme de diplôme, mais bon, on ne sait pas trop ce qu'il peut valoir. Quelque part, il faut relativiser aussi le succès d'un livre. Mais bon, quoi qu'il en soit, un prix est une forme de diplôme pour un photographe, alors qu'il n'y a pas vraiment de reconnaissance autrement. Après, il faut relativiser tout ça, parce que ça correspond à une période donnée. Vous avez un sujet qui peut marcher une année, puis pas forcément l'autre. Il peut y avoir une année des gens qui préparent, qui présentent un travail qui est similaire aux autres, donc vous avez moins de chance, alors qu'une année, vous seriez le seul, vous aurez beaucoup plus de chance. C'est important d'avoir des jalons de vie personnellement pour avoir une reconnaissance quelque part professionnelle. Il est vrai qu'un WordPress vous ouvre beaucoup de portes, vous avez moins de complications, moins de difficultés à rencontrer les gens du milieu après, évidemment. Mais bon, vous savez, moi, le plus grand prix que j'ai pu recevoir, c'est de partir heureux d'une rencontre que j'ai faite en photo. C'est ça mes plus grands prix, c'est quand je n'arrive plus à quitter la personne que j'ai photographiée, et elle non plus, et que cette rencontre me hante pendant des, va me hanter pendant des, enfin me posséder pendant des heures ou des jours. C'est ça les prix que je vise.
Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre à ce petit garçon, puisque, je le redis, vous êtes grand-père aujourd'hui, Olivier Folmy?
Vous me prenez à court. Qu'est-ce que j'aimerais transmettre à mon fils,
hein, à votre
mon petit-fils, pardon. J'aimerais lui en transmettre la notion de la passion, de la vision de la vie positive. Lui dire ne tombe pas dans le piège de croire que tout est foutu, que tout va mal. C'est un piège. On est endoctriné par ça. Tout va pas très bien, bien sûr, mais beaucoup de choses vont bien. Donc garde l'espoir, garde la tête haute, parce que finalement c'est toi qui fais le futur. Le futur est dans tes mains, c'est toi qui crée la société. Ne sois pas dépendant de la société, fais la société que tu veux avoir. C'est ça que j'aimerais lui dire.
Où allez-vous repartir bientôt?
Je repars au Zanskar, puisqu'il y a encore un troisième mariage dans la famille, donc je remonte là-haut pour retrouver tout le monde. Et malgré tout, je consacre cette année à l'écriture. Parce que j'ai toutes ces histoires de vie, de voyages.
Mais alors ce livre, justement, que vous n'avez pas écrit, c'est quoi ce livre?
Ben, il traîne un peu, je reconnais, mais je suis toujours happé par le voyage, j'ai toujours envie de repartir, c'est plus fort que moi. Mais il faut que je le finisse, bien sûr, parce que j'adore écrire.
Mais vous allez raconter quoi?
Ah oui, j'ai 300 histoires à raconter autour du monde, liées à mes voyages, mes rencontres. Non, je suis passionné par ce travail d'écriture. Simplement, j'ai de la peine à tenir en place, il faut que je m'attache. Donc je suis sur ce travail, mais c'est pas un livre qui va sortir avant, à mon avis, 2 ans quand même. Il faut beaucoup de temps. J'ai 150 histoires que j'ai racontées, il m'en reste encore 150. Et par contre, je prépare des conférences pour l'hiver prochain. Comme vous aviez parlé du fleuve gelé, eh bien, vous savez, j'ai fait 10 ans autour du monde après le fleuve gelé pour ce projet des sagesses de l'humanité avec Daniel.
Et, votre épouse.
Oui. Et donc, j'ai envie de transmettre ce que j'ai appris de ce tour du monde, cette beauté de ces relations que j'ai pu avoir avec les gens. J'ai envie de repositiver le monde, de redonner espoir, parce que je trouve que le monde est beau, et il vaut la peine d'être vécu, et donc la peine d'être défendu.
Les nouveaux murs de la maison, sous la peinture et les faux plafonds, notre futur. Le souvenir de mes vies premières, troupeau de moutons de poussière, mes gravats de célibataire. Et cet enfant qui pleure, qui mange, kilo de lait, kilo de l'ange, et tout cet amour en échange. J'espère, c'est peu de le dire. J'espère que tout ça va tenir. Sur mes épaules, mes épaules, mes épaules, pas bien carrées, mes épaules, mes épaules, mes épaules, pas bien gaulées, pas baraquées, pas balèzes.
Olivier Folmy, précision, les conférences sur les sagesses du monde, ce sera cet hiver aussi en Suisse romande. Et puis, exposition dans le cadre de Genève Art à Palexpo. Olivier Folmy, vous exposez à la galerie Simon Studer Art. On se retrouvera, j'en suis sûre. Merci Olivier.
Merci Madeleine, merci à tous.
Vous écoutez La Première, il est 14h.